peut-être juste pour lancer le débat et continuer le travail que tu as fait, Julien, de faire ce lien avec la première table ronde. Moi, j'avais juste deux questions. La première, qui est une question un peu de novice, qui est... J'ai l'impression, ce matin, enfin, à la première session et aujourd'hui aussi, qu'il y a un peu un glissement sur les acteurs. Et je me demandais, on parle de la politisation de qui ? Est-ce qu'on parle de la politisation des bénévoles, des salariés ou des usagers ? Est-ce que du coup, les freins à la politisation sont les mêmes ? De fait, on a beaucoup parlé de la politisation des usagers qui passe par la politisation des professionnels. De ces centres sociaux, et je me demande, et notamment dans l'expérience de Los Angeles, je pense que c'est plus clair à Monosserre, est-ce qu'il n'y a pas aussi l'inverse, en fait, la politisation des usagers qui, en fait, permet de politiser les centres sociaux ou politiser le community organizing? Et la deuxième question qui est liée, enfin, que je poserai aussi au premier panel, c'est ce serait peut-être intéressant de mettre en relief dans vos recherches avec les autres formes d'engagement politique et d'expression des classes populaires, notamment, mon terrain c'est aussi les États-Unis, donc c'est un peu ce qui me vient en tête. Il y a d'autres formes d'expression politique, et donc du coup, est-ce qu'elles ne rentrent pas en concurrence, ce qui expliquerait des freins à la politisation dans les centres sociaux? Par exemple, moi j'ai travaillé sur New York, il y a effectivement le community organizing qui permet une forme de politisation. Mais il y en a d'autres, il y a des partis politiques qui sont... Bon, il y a eu des élections récemment aux États-Unis avec une politisation vraiment qui part de la base. Et ce qui, en fait, du coup, il y a aussi des formes de concurrence entre ces formes, ces centres sociaux ou ces comités organizing et d'autres groupes qui expliqueraient, en fait, que bah, finalement, il y a une dépolitisation dans les centres sociaux. Ce qui ne veut pas dire que les classes populaires sont dépolitisées, mais juste, en fait, la politique, elle peut se faire ailleurs. Et vous parliez tout à l'heure des gilets jaunes. Je me demande si ce n'est pas aussi ça qui explique qu'il y a des appels d'air, enfin des jeux un peu comme ça d'appels d'air. Je vais passer la... Bon, super, c'est déjà fait.
Merci pour vos interventions. J'avais une question, une remarque pour Julien. Je voulais savoir, c'est quoi le modèle économique du coup du community organizing? Et c'était autour de deux questions en fait. C'était par rapport au... C'est qui les salariés que tu dis, c'est les salariés très professionnalisés, etc. Mais d'une part, c'est quoi leur niveau de qualification, d'où ils viennent, est-ce qu'ils ont fait des études ou quoi? C'est quoi leur temps de travail? Parce qu'on a parlé aussi hier de la question de l'engagement professionnel, l'engagement militant. Est-ce que être salarié de ce type d'organisation, ça veut dire bosser 80 heures par semaine, soir et week-end? Et donc, du coup, le rapport entre professionnel et militant, quoi. Et c'est quoi leur salaire, par exemple? Parce que aussi, une des premières expériences de community organizing en France qui a eu lieu, c'est à reposer sur des organisateurs qui étaient des gens très qualifiés, qui ont accepté des salaires très 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 bas pendant plusieurs années. Et ce qui explique, c'est un modèle très militant, en fait. Donc tu dis que c'est professionnalisé, en même temps c'est un modèle économique qui en repose sur un militantisme très fort. Et du coup, je voulais savoir, aux États-Unis, est-ce que c'est un peu le même modèle? Et du coup, c'est quoi comment c'est financé, quoi? S'ils ne sont pas financés par les pouvoirs publics pour pouvoir être autonomes, d'où viennent les financements? Et l'autre chose, c'était une remarque, mais c'est un peu flou encore. Tu fais une tension entre manipulation et dépolitisation, en disant qu'en gros, il faut manipuler pour politiser. Enfin, et il y a un truc qui me... Il faudrait approfondir un peu là-dessus, mais je pense que la tension, elle est plus entre démocratie et efficacité, quoi. En gros, est-ce qu'on va vite au détriment de prendre le temps de la démocratie? Et du coup, ça me rappelle la question que j'avais tout à l'heure, en fait, qui était de dire, est-ce que le modèle associatif et les conseils d'administration dans les centres sociaux, qui est quelque chose qui, effectivement, pose plein de questions, parce que ça, c'est un engagement qui est dans le conseil administratif, que les CA, on ne sait jamais trop ce qui s'y passe, est-ce que c'est vraiment des lieux politiques ou est-ce que c'est que des lieux techniques, etc. Mais est-ce que, finalement, ce modèle-là associatif avec un conseil d'administration, c'est pas le meilleur garde-fou pour éviter que des salariés deviennent manipulateurs? Et je me demandais s'il n'y avait pas un truc à réfléchir autour de ça aussi. Voilà.
Merci. Je voulais juste moi témoigner de 3-4 trucs. Comme mon collègue Denis là qui tout à l'heure s'exprimait, oui, je trouve que ça apporte énormément de choses au réseau des centres sociaux, Centre Val de Loire, mais moi de ma place, enfin au réseau national, bien évidemment, juste témoigner de quelques éléments. Moi, ça me conforte tout ce qu'on est en train de travailler ce matin sur des choses qu'on tente de pousser depuis un moment. Et puis, ça me conforte aussi sur un certain nombre de chemins. Juste par rapport à l'exemple, on en est loin. Et en même temps, on a réellement et des opportunités, on a réellement des marges de manœuvre et on est réellement fort. Je pense que ce qui avait été dit ce matin sur... dans notre réseau, 1400 centres sociaux. Si 1400 centres sociaux en France, dont on a besoin, je rappelle juste que dans le plan pauvreté, par exemple, une des mesures phares du plan pauvreté, ça a été la création de 300 centres sociaux dans les quartiers politiques de la ville non couverts. C'est bien que dans l'État, l'État perçoit effectivement la nécessité de ces équipements aujourd'hui en France. Ça montre bien que lorsque nous, on s'auto-censure politiquement, mais aussi lorsque on n'a pas trop confiance en nous, je reprends les témoignages des collègues là ce matin qui disaient les choses, c'est pas ça. Notre réseau, les centres sociaux, avec leurs faiblesses certainement, mais aussi avec la proximité qu'ils ont, ils ne sont pas si évidents que ça, tous ces équipements en France qui sont dans cette proximité-là dans laquelle nous nous sommes, etc., on a un certain nombre d'atouts pour être des acteurs de transformation sociale dans la société. Et puis je voulais juste vous dire, du coup, plusieurs fois les copains de la Fédé Centre-Val-de-Loire ont parlé du congrès. La thématique de notre prochain congrès, elle est sur la question de la justice sociale. Derrière, la volonté de notre réseau, c'est d'avancer sur cette dimension-là, effectivement, à la fois du DPA, de la transformation sociale, de grandir sur ce pied-là, sur lequel on est un peu plus faible aujourd'hui, que la question du community organizing, du DPA, de l'empowerment, on y travaille depuis un moment. Quelques témoignages, et je sais que quelques-uns d'entre vous vont faire une formation qui s'appelle Formation Action Collective à visée émancipatrice d'ici quelques semaines ou quelques mois. On en parlait hier avec Ramatou. Cette formation, elle s'inspire pour une part d'un certain nombre de choses que tu présentes, Julien, et sur lesquelles on avance. On bosse, on a mis en chantier, et puis je sais que la Fédé y suit ça également, la question des modèles socio-économiques dans l'esprit de ce que tu disais, Julien, c'est-à-dire il faut qu'on développe de l'autonomie et de la capacité financière pour pouvoir renforcer un certain nombre d'actions qu'on aurait envie de porter aussi de façon un peu différente. La question, et du coup, moi, je retiens vraiment de cette matinée, et je m'arrête là, mais que la question de la politisation des salariés, mais aussi et aussi fortement des administrateurs et des habitants qui sont au pilotage et au portage des projets, est vraiment essentielle. C'est une des priorités de notre projet politique depuis l'année dernière, où on a fait un peu le bilan à mi-chemin du projet fédéral. Donc, à la fois conforté, à la fois on a des points d'appui, et à la fois, il me semble qu'il faut qu'on prenne conscience aussi qu'on est en train de prendre ce chemin avec un grand nombre comme ça d'expérimentations qui, quand elles sont mises en système, montrent bien qu'on tente d'avancer là-dessus. Et on a besoin de ce regard qui vient à la fois nous titiller, nous conforter. Mais je voulais juste reprendre ce que tu disais tout à l'heure. Mais le fait de bosser avec des chercheurs, pour moi, c'est plutôt venir nous conforter et affiner nos stratégies et le chemin. Et moi, je voulais juste quand même témoigner que on n'est pas complètement à la ramasse et on avance, quoi, hein, avec nos spécificités et notre histoire, nos forces, mais aussi des faiblesses dont il faut qu'on tienne compte.
On va juste reprendre encore quelques questions, parce qu'on m'a dit qu'on fera un débat juste de 15 minutes pour ne pas trop déborder. Je vous demande d'être un peu...
Ça va aller très vite, j'ai juste deux questions. Et je vous remercie d'ailleurs pour les deux témoignages. Et j'ai une question parce que le tableau il est assez magnifique dans les deux cas. Et j'aurais aimé savoir si vous avez vu des limites autant aux États-Unis qu'en Argentine dans vos deux systèmes. Et puis la deuxième, je ne sais plus, mais je pense que mes collègues y vont.
Déjà là. Alors, c'est juste pour compléter ce que tu disais là. Je ne remets pas du tout en question le travail qu'on a fait avec les chercheurs. Hein. C'est très très positif. Hein. C'était plutôt une réflexion globale. Mais avec tout ce qui se dit, tout ce qui se fait depuis deux jours, mais aussi depuis deux ans, m'amène à me poser une question. Qu'est-ce qui fait tant peur à nos politiques, à nos associations, à toutes les institutions qui nous financent, pour qu'on s'autocensure et qu'on ait des pressions pour pas qu'on les mette en avant. Donc c'est juste ça qui m'interpelle, parce que ce qui va remonter, c'est que ça existe, et pourquoi on traiterait pas ce qui existe, tout simplement. Donc pourquoi on s'autocensure comme ça, et qu'on peut avoir des pressions de nos financeurs pour pas écouter ce qui se dit, quoi. Voilà.
Temps pour une dernière question.
Ouais. Non, c'est juste un témoignage. Pas besoin du micro.
Bon, juste un témoignage par rapport à la fédération pour dire qu'effectivement, c'est en route au niveau des modèles socio-économiques. Au niveau de la fédération régionale, ça fait déjà un an qu'on avait commencé à travailler là-dessus. Pour notre part, là, sur l'association, c'était... On avait regardé pour participer à la formation, on n'a pas pu parce qu'il n'y avait pas de place. Je me suis réinscrit rapidement avec mon collaborateur sur cette formation et finalement j'ai été étonnée de voir que on était 5-6 personnes. On a deux personnes qui sont parties en cours de route et je me dis pourtant bon sang, on est en plein là-dedans, comment ça se fait qu'on s'en empare pas? Et quand j'ai parlé de ça à mes institutions financeurs, même une institution était intéressée par cette question-là, en disant bah, nous aussi, on ne pourrait pas voir cette question-là. Donc c'est ce qu'on disait, il faut vraiment former les élus et les prendre pour les associer, pour travailler ensemble ces questions-là. Et ça, ça me paraît hyper important. Donc, allez-y à la formation, c'est super. Et ça permet de lever le nez du guidon. Ça permet aussi de prendre des décisions.
La suite dans le prochain roman. Hein, donc.
On va laisser le temps, au moins que les personnes puissent répondre. Vous avez deux minutes chacun. Vas-y.
Bon, je commence par la question des limites, qu'en fait c'était plutôt la question qui me touche. Il y a 20 000 limites, il y a énormément de limites. Je sais pas, je fais mention seulement à une question qui pour moi ça me préoccupe en tant que chercheur collaboratif, disons, qui est l'absence de discussion par rapport aux relations de genre. C'est une question très difficile, et particulièrement avec l'organisation dont je travaille, parce que c'est plutôt des hommes. Il y a, même si c'est une femme qui les gère, parce qu'en fait, c'est une femme, et c'est vraiment 80% des hommes. Donc c'est une femme assez forte. Mais c'est difficile même pour elle d'installer des questions de rapports de genre qui sont vraiment c'est très machistes, on dit machistes, vraiment un milieu. Donc, et c'est très délicat à travailler cette question-là. Ça, pour moi, c'est vraiment une limite forte, même s'ils participent, ils s'engagent à des questions par rapport à mobilisation autour de femmes et tout, mais dans le quotidien, c'est quelque chose de très délicat, difficile. Et c'est aussi les femmes qui soutiennent les cantines communautaires, clairement. C'est beaucoup plus les femmes qui travaillent dans la construction des maisons. C'est les femmes qui, en fait, soutiennent la reproduction de la vie, c'est clair. Donc ça, c'est une question qui travaille moins dans les trains, dans la vente, et plutôt dans les maisons, dans les... Tous les travaux qui, en fait, c'est ce que j'appelle le substantif pour reproduire pas sa reproduction de la vie. Donc, pour la question de la politique, donc, il y a 40 000 limites. Donc, et la question de comment qui s'engage, en fait, plus dans les travaux collectifs, c'est tout le monde et pas tout le monde, en fait. Il y a, comme tout, partout, dans tous les collectifs, il y a des gens qui s'engagent plus et des gens qui s'engagent moins. Et ça, c'est toujours, ça pose toujours des problèmes. Et donc, il y a aussi beaucoup de travail sur comment et qui participe et qui est, je sais pas, pardonné quand il ne participe pas ou pourquoi. Donc, il y a beaucoup de réflexions à faire autour de ça. Et pour la question de la politisation d'équipe, qui n'était pas exactement adressée à mon intervention, mais parce qu'en fait, moi, c'est pas des salariés ou des travailleurs sociaux, c'est eux-mêmes qui, en fait, c'est moi, je suis dans les côtés acteurs qui en fait, entraînent des processus d'organisation. Donc là, la politisation d'eux-mêmes, mais ça, de toute façon, ça pose aussi la même question parce qu'il y a toujours des militants et il y a des personnes qui en fait, s'engagent plutôt pour la survie ou pour résoudre les questions des besoins matériaux. Donc, c'est à la même relation entre les dirigeants et les autres, on peut dire, d'une façon. Et je suis convaincue que la formation, c'est quelque chose qu'on fasse, on ne fait pas. C'est pour ça que je donne l'exemple de la maison de Sylvia, qu'elle montre à elle-même, aux autres, comment elle savait changer leurs conditions de vie et lui donner une place à chaque. Elle a 4 filles et fils, donc pour elle, lui donner une place à chacun, c'est vraiment elle est très fière, parce que les personnes des quartiers populaires, ils n'ont pas chaque fille une chambre, ils dorment tous ensemble. Donc l'exemple pratique, ça c'est la formation aussi, avec les exemples, elle forme tout le temps les autres, en donnant des exemples de comment on politise en faisant. Donc là, je crois que la question de la formation, c'est très important. Et le travail pédagogique dont je parlais tout à l'heure, de montrer que ce qui est reçu, ce n'est pas des choses qui sont octroyées, mais données, mais des droits qui sont conquis. Ça, c'est un travail quotidien dans la formation de tous les jours, dans tous les espaces, qui ne sont pas nécessairement pensées ou des espaces dits de formation. Ils font aussi des formations, comme j'ai montré, mais il y a une formation qui est quotidienne et pour moi, c'est beaucoup plus fort et plus important et qui touche tout le temps les questions de la vie quotidienne et les émotions, les affects, les relations. Ça passe pour s'embrasser. C'est pas une question de contenu, de débat. Comme on disait tout à l'heure, la politique, c'est dans les débats, mais aussi dans les actions. Bon, c'est aussi une façon d'agir, les débats, c'est clair. Mais ce n'est pas non plus des espaces déterminés, qui sont à part, c'est tout le temps.
Ouais, merci pour tout ça. Quelques éléments d'éclaircissement. Alors, sur le. Comment ça fonctionne, effectivement, le modèle économique est important. 80% près des ressources sont issues de fondations. Qui sont en fait, il y a une sorte de monde des fondations progressistes quand même qui est très important aux États-Unis, qui assure l'autonomie à l'égard des pouvoirs publics et qui permet des choses. L'organisation dont je vous parlais, la Community Coalition, c'est 40 salariés, 3 millions de dollars de budget annuel. Sur les 40 salariés, il y en a 15 qui font ce travail vraiment de terrain, de community organizer, etc. Et ça peut être une des limites, une des difficultés, c'est que c'est pas facile d'être community organizer, mais c'est pas du tout la même situation qu'en France. C'est des gens qui sont payés entre 1500 et 2000 euros par mois, qui travaillent 40 heures, la difficulté simplement, c'est que aller se taper 4 heures de porte-à-porte par jour, etc., pendant des semaines, ça use en fait. Et donc, j'ai quelque chose que j'ai recueilli, je prépare un papier là-dessus d'ailleurs, mais des formes un peu de malheur militant quand même, de trucs qui, moi je voulais faire la révolution et je me retrouve à faire du porte-à-porte, quoi. Et à un moment, on a envie de faire autre chose, quoi. Mais toujours est-il que, et c'était aussi une des remarques, c'est que c'est effectivement des travailleurs sociaux très, très, très militants. Moi, je suis arrivé là-bas, une des grandes figures du community organizing récent aux États-Unis, c'est Barack Obama, qui avait été community organizer dans les années 80. Et donc, les gens qui s'investissent dans ces carrières-là sont des gens qui font de la politique. C'est-à-dire potentiellement pourront s'investir dans les partis, mais je veux dire, c'est pour eux, s'investir dans du community organizing, c'est la meilleure façon aujourd'hui de changer le monde. Et c'est pour ça qu'ils font ça. et c'est le choix professionnel qu'ils font. Quel profil ils ont ? C'est des gens qui sont diplômés du supérieur, sociaux, sciences politiques, etc., qui sont souvent issus des quartiers, en fait. Et donc, c'est des gens qui sont... C'est une façon pour eux, en s'investissant dans ces espaces-là, de redonner, et ce qui crée aussi les relations qu'ils ont avec les habitants.
Est-ce que du coup, il y a du turnover ? C'est ça que tu voulais
dire ? Oui, il y a beaucoup de turnover, parce que soit on monte en hiérarchie, à un moment, on a marre de faire du terrain et donc on vient à coordonner un peu, etc. Soit on s'en va parce qu'on s'use, non, très clairement. Voilà. Dernier point peut-être sur la difficulté, c'était un peu le sens de ce que j'ai voulu dire. C'est un des risques quand même dans moi de ce que j'ai pu voir, c'est quand même une forme de manipulation. C'est-à-dire, moi, je pense que c'est problématique de donner les bonnes réponses. Ce qui est intéressant, c'est de créer des espaces pour que les gens les trouvent par eux-mêmes. Et donc, ça, moi, je trouve que c'est hyper intéressant de réussir à motiver des gamins pour qu'ils passent des heures à discuter de pourquoi on vit ce qu'on vit. Mais plutôt que de dire, c'est de donner les bonnes réponses, c'est de dire, bon, bah, il y a X qui dit voilà pourquoi vous vivez, Y qui dit ça, Z qui dit ça, et puis après, discutons. Et donc, d'organiser une délibération et une discussion politique sur les différentes interprétations du monde dans lequel on vit. Et ce qui n'était pas exactement le cas. Donc moi, c'est ça qui me gênait un peu. Et donc, pour faire le parallèle avec les centres sociaux, et moi, honnêtement, dans ce que j'ai observé, en tout cas dans le Nord, il y avait une très grande diversité. Et moi, je ne suis pas du tout en train de dire que les centres sociaux ratent le truc. Voilà, il se passe des trucs vraiment, vraiment intéressants. Il y a y compris, notamment sur les questions de rénovation urbaine, des centres sociaux qui essayent de faire des trucs et de mobiliser les habitants dans des démarches qui me semblent vraiment inspirantes. Mais... Voilà, j'ai le sentiment que côté travailleurs sociaux en France, il faut pas qu'on en fasse trop. Donc moi, je pense qu'il faudrait trouver une sorte d'entre-deux, en fait. Entre la manipulation et ne pas du tout intervenir, je pense qu'on pourrait en faire un peu plus en France. Moi, c'était un peu le sens de mon intervention, c'est allez-y, lâchez-vous. On en a besoin, quoi. Je pense que c'est hyper important politiquement aujourd'hui, et je finirai par de quoi les institutions ont-elles peur ? Alors, c'est une bonne question. Je pense qu'il faut leur demander. Moi, je pense que fondamentalement, elles ont peur de perdre le pouvoir. Et je pense qu'on est quand même dans une culture institutionnelle, politique, où il y a une sorte de conception depuis la Révolution française, etc., très centralisée, avec cette idée que les élus et les institutions ont le monopole de l'intérêt général, et ça, c'est en train de tuer notre démocratie, en fait. Et donc, moi, je pense qu'on a besoin d'avoir une conception beaucoup plus pluraliste du pouvoir, où les contre-pouvoirs, les associations, on a besoin d'espaces intermédiaires, les gilets jaunes, c'est super, mais moi, je pense qu'on a besoin d'espaces intermédiaires, notamment, qui puissent cristalliser, organiser la voix des milieux populaires, et que sans ces espaces intermédiaires-là, c'est quand même compliqué, quoi, et que ces voix-là sont le plus souvent tues, quoi. Et donc, les institutions n'ont pas forcément toujours très envie de partager le pouvoir, et je pense que l'exemple qui était donné par Régis tout à l'heure était assez révélateur de cela.